dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Saint-Afrique. En ce mois de juillet 2017, que vous soyez dans votre jardin, allongé sur votre transat ou sur votre balcon à l'abri de votre parasol, ou alors en train de préparer le repas à côté de votre barbecue, Dissonance vous invite à réécouter des extraits de nos émissions diffusées cette année.
Au programme,
les propos d'un humaniste, Jean Poli, instituteur passionné, amoureux des mots et de la vie.
Il y aura aussi la découverte avec son initiateur Jean-Claude Ostruy du centre de sauvegarde de la faune sauvage basé à Millau.
Rencontre avec un magicien du rabot et de la gouge dans son univers boisé, un ébéniste perfectionniste, Romain Saulier.
Un retour avec Jean-Vas Aranzaès sur un épisode que l'histoire officielle cherche à gommer, la révolution sociale espagnole de 1936-1937.
Et ce seront les mots d'Yves Durand, comédien et conteur, nimbé de culture occitane, qui clôtureront ce retour sur les émissions de Dissonance, saison 2.
Les rubriques poétiques d'Elsa Dauphin côtoieront ses parcours de vie en évoquant
les écritures saintes et exécrées,
le retour des mille ans noirs,
ainsi que la mémoire des meubles.
Bonne écoute. Dissonance
sur Radio Saint-Afrique. Aujourd'hui, nous découvrirons un magnifique parcours de vie où la passion en est le moteur. Jean Poli, c'est une humanité à entendre. C'est des textes à écouter et c'est aussi une voix et une plume qu'il met au service de ses poèmes mis en musique par lui et ses amis.
D'ailleurs, pour commencer, écoutons une de ses créations, Petite Prune, chantée par Annick Peset et Jean Poli sur une musique d'Éric Ardouin.
Tu dis que t'aurais pas dû la petite prune, le pouce café. Tu dis que tu as un peu bu tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Le grisou, la pomponnette, le bisou sur la hunette, la fleur ouverte en dedans, la fleur qui te donne envie. Tu dis que j'aurais pas dû la petite prune après souper. Tu dis que j'ai un peu trop bu, que j'ai manqué de tituber. Le tripou dans la casquette, vent debout dans la conquête. La valse offerte en avant, la valse qui te met l'eau de vie. La fleur ouverte en dedans, la fleur de ses 30 ans, la fleur aux dents. La valse offerte en avant, la valse chaud devant, la valse au vent. La rosette est arrosée, la grisette est grisée, la musette amusée. Avanti, popolo, separati, mon polo. Quand l'accordéon fait pas dans la dentelle. Quand on s'en fout, quand on a un petit coup dans l'aile. La traînée des yeux qui brillent, la tournée des corps sur la piste. L'envolée des pas qui glissent et qui vous mènent au bord du précipice. Je dis que t'aurais pas dû la petite brune de la soirée. Je dis que tu as un peu bu, tout ce que je dis c'est pour de vrai. Le bignou, la gigolette, le froufrou dans l'arbalète. La fleur ouverte en dedans, la fleur qui t'a fait envie. Je dis que t'aurais pas dû la petite brune dû l'embrasser. Je dis que tu as un peu bu, tu m'as rien dit, tu m'as laissé. Le caillou, la baïonnette, le dégoût dans la défaite. La valse offerte en avant, la valse qui t'a mis l'eau de vie. La fleur ouverte en dedans, la fleur de ses 30 ans, la fleur aux dents. La valse offerte en avant, la valse chaud devant, la valse au vent. La rosette est arrosée, la grisette est grisée, la musette amusée. Allons-y, allons-y, c'est parti mon polo. Quand l'accordéon fait pas dans la dentelle. Quand on s'en fout, quand on a un petit coup dans l'air. La traînée des yeux qui brille, la tournée des corps sur la piste. L'envolée des pas qui glissent et qui vous mène au bord du précipice. Je dis qu'on n'aurait pas dû la petite prune après souper.
Dissonance
avec Jean Poli sur Radio Saint-Afrique.
C'est intéressant dans un parcours de vie de pas seulement parler des choses du social, soit au public ou militante ou tout ça. Il y a aussi une part privée qui apparaît pas et qui est fondamentale. C'est un petit peu ce que je disais sur les sciences d'éducation tout à l'heure. Elles ne peuvent pas tout enfermer. Une vie publique ne peut pas tout enfermer. Elle ne peut pas enfermer une personne. Il y a plein de choses. Donc il y a une chose intime qui est l'écriture, qui est la chanson, auquel je tiens beaucoup. C'est difficile d'en parler, c'est quelque chose d'intime. Mais je trouve ça intéressant l'idée que dans une vie, quelquefois c'est bien de se mettre à côté. J'avais fait une chanson qui s'appelait Chant secret, le chant secret. Et le chant secret, c'est souvent le chant CHAMP. Il y a des lieux-dits qui portent ce nom-là. Et l'idée de ces lieux-dits, en fait, c'est le chant à l'écart, en fait. Le chant un peu qu'on a oublié. Et dans toutes nos vies, on a une vie à l'écart. Des certitudes, et puis des discours, et puis de notre vie publique, en fait. Voilà. Donc, c'est une part. Je pense pas que ce soit une recherche spirituelle ou religieuse, c'est simplement de penser que c'est compliqué une vie. Il y a plein de choses qu'on peut pas rentrer dans la raison, il y a des données qui nous échappent. Et heureusement, c'est bien. Ça permet de rêver, ça permet de. La poésie, c'est ça en fait. La poésie, c'est ouvrir une fenêtre sur autre chose, quoi. Bon, c'est. Voilà. Donc, c'est peut-être justement en étant à la retraite, en quittant l'école, en étant beaucoup au jardin, en marchant, c'est peut-être ce qui maintenant est le plus important de ma vie, parce que dans le luxe de la retraite, le luxe de l'oisiveté, c'est de pouvoir prendre du temps à l'écart, justement, et de ne pas être pris par le.
Oui, le nez dans le guidon tout le temps.
Le quotidien. Quand j'ai fini ma carrière, j'essayais de ne pas être trop aigri, mais j'étais malheureux de voir l'évolution du système et en même temps heureux de rencontrer des jeunes instits qui échappaient au formatage et en fait abordaient les métiers, alors peut-être sans le savoir, sans s'en rendre compte, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un rapport humain avant tout. Le rapport pédagogique, c'est un rapport humain entre un adulte et des enfants, ou plusieurs adultes et plusieurs enfants. Enfin, bon. Et ça existera toujours, je pense. Malgré tout le discours sur la technicité, sur le professionnalisme, c'est extraordinaire, ça compte, qu'on a commencé à parler de professionnalisme comme si les enseignants avant n'étaient pas des professionnels. Il fallait qu'on devienne professionnel, il fallait qu'on devienne des techniciens, c'était extraordinaire ça. C'est pour nous mieux dire qu'on devenait des agents de quelque chose qui se décidait autre part que nous, on n'était plus acteurs. Et donc en fait, c'est l'espérance de ça, c'est qu'on ne pourra pas échapper à ce que l'acte éducatif soit un acte humain. Et puis voilà, ça nous renvoie aussi aux questions qu'on abordait à la fin, aux questions être à l'écart, quoi. Il y a des choses qui échappent à tous les discours rationnels, quoi. Puis on n'est pas forcé d'expliquer, c'est comme ça, c'est assez beau.
La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
On n'a jamais autant parlé de religion. Certes, me direz-vous, l'actualité s'y prête. Mais tout de même, ça commence à faire beaucoup, et moi, la religion, sans vouloir fâcher personne, ça m'emmerde. On a beau nous répéter que Dieu est amour, les trois religions monothéistes n'ont jamais fait dans la dentelle. Chez les chrétiens, c'est une sacrée pagaille. Les catholiques ont brûlé joyeusement cathares, vaudois et protestants. Ces mêmes protestants ne furent pas en reste avec les catholiques et trouvèrent même le moyen de se friter grave entre calvinistes et luthériens. Chez les musulmans, ça s'étripe entre chiites et sunnites, et les juifs orthodoxes font souvent preuve de la plus grande intolérance. Je ne résiste pas à vous donner un dernier exemple de la bonté de Dieu. Ça se passe en 1945. l'avion qui largua la bombe atomique sur Hiroshima fut béni par l'aumônier militaire en ces termes. « Que les hommes qui s'envolent cette nuit soient en sécurité et qu'ils nous reviennent en vie. Nous continuerons, droit devant, confiant en toi, mon Dieu, sachant que nous sommes sous ta protection, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. » La bénédiction fut efficace, 150 000 morts et 80 000 blessés d'un coup d'un seul, youpi. Et quand on sait que certains prétendants à l'élection du plus gros égo vont nous bassiner avec les racines chrétiennes de la France, on est en droit de s'inquiéter. Alors je me disais qu'on pourrait réconcilier tout ce petit monde sous le haut patronage de Jacques Prévert, dont les écritures saintes valent bien la Bible, le Coran ou la Torah. Écritures saintes. À Paul et Virginie, au tenon et à la mortaise, à la chèvre et au chou, à la paille et à la poutre, au-dessus et au-dessous du panier, à Saint-Pierre et Miquelon, à la une et à la deux, à la mygale et à la fourmi, aux istes et aux estes, à votre santé et à la mienne, au bien et au mal, à Dieu et au diable, à Laurel et à Hardy. Dieu est un grand lapin. Il habite plus haut que la terre, tout en haut, là-haut, dans les cieux, dans son grand terrier nuageux. Le diable est un grand lièvre rouge avec un fusil tout gris pour tirer dans l'ombre de la nuit. Mais Dieu est un gros lapin. Il a l'oreille du monde, il connaît la musique. Une fois, il a eu un grand fils, un joyeux lapin, et il l'a envoyé sur la terre pour sauver les lapins d'en bas. Et son fils a été rapidement liquidé et on l'a appelé Civé. Évidemment, il a passé de bien mauvais moments. Et puis il a repris du poil de la bête. Il s'est remis les os en place, les reins, le râble, la tête et tout, et il a fait un bond prodigieux. Et le voilà maintenant rue de Lapin, bondissant dans les cieux, à la droite et à la gauche, du grand lapin tout puissant. Jacques Prévert, Écriture sainte, Amen.
C'est pourquoi qu'on vit, papa. C'est pourquoi qu'on vit. J'en sais rien, mon ouistiti, je sais vraiment pas. Peut-être pour admirer, au 14 juillet, le feu d'artifice dans un ciel d'été. Peut-être pour fabriquer un château de sable que la mer va emporter. C'est pourquoi qu'on vit, papa, c'est pourquoi qu'on vit. J'en sais rien, mon koala, je sais vraiment pas. Peut-être pour la douceur d'un matin fragile, peut-être pour la fraîcheur d'un soir en avril, peut-être pour quatre gouttes de pluie sur ta main, vite évaporée comme un court chagrin. C'est pourquoi qu'on vit, papa, c'est pourquoi qu'on vit. J'en sais rien, mon koala, je sais vraiment pas. J'éteins la lumière, il est tard déjà. Demain, il y a école, n'oublie pas. C'est possible qu'un jour, un petit panda te demande à son tour, et dis-moi papa, c'est pourquoi qu'on vit, c'est pourquoi qu'on vit, c'est pourquoi qu'on vit. Dis-moi, je sais pas. Dors. Dors.
Dissonance
sur Radio Sainte-Afrique.
Nombreux sont celles et ceux qui viennent de tout l'Aveyron, mais aussi du Tarn, de l'Auxerre, du Cantal, de l'Hérault et même du Gard, qui n'hésitent pas à faire plus de 200 km pour faire soigner un animal sauvage. Ils savent qu'au centre de sauvegarde de la faune sauvage basé à Millau se trouvera une oreille attentive, un accueil chaleureux et feront la connaissance de Jean-Claude Ostruy.
un homme dévoué et passionné qui fera tout pour sauver soit le martinet, le hérisson, la chouette, le castor, le grand-duc, le renard, la toute petite pipistrelle, l'immense vautour, le magnifique busard Saint-Martin ou même le majestueux aigle royal.
Quel est le public qui vient vous apporter des animaux blessés ?
La plupart des gens qui découvrent un animal sauvage en difficulté blessé, bon, certains doivent passer à côté sans même les regarder, mais ceux qui en général les récupèrent sont très sensibles à la cause animale, à la cause animale et aux espèces sauvages. Et donc à partir de là, ils essayent de se renseigner qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent essayer de sauver cet animal. Et on a une chance quand même qui nous aide beaucoup actuellement, c'est que grâce au développement des médias, les nouveaux médias, hein, en particulier au niveau d'Internet, ben, il suffit de chercher un petit peu partout et puis on arrive toujours à trouver un centre de sauvegarde quelque part en France. C'était beaucoup plus compliqué il y a une vingtaine d'années puisque on avait surtout affaire aux services de l'État, que ce soit la garderie départementale de l'Office national de la chasse, les gardes des parcs nationaux, les gendarmes, les pompiers. Il y avait pratiquement qu'eux qui nous connaissaient. Et à partir de là, pour les gens qui trouvaient des animaux, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, ça devient beaucoup plus simple. Et je dois dire que c'est probablement la raison qui fait qu'on en reçoit de plus en plus. C'est aussi probablement la raison qui fait qu'on est de plus en plus saturé au niveau des appels téléphoniques, puisque les gens nous appellent parfois aussi pour juste un petit renseignement et non pas pour intervenir directement.
Je suis curieuse de savoir la variété des animaux qu'on vous amène. Est-ce que c'est surtout des oiseaux ou alors est-ce qu'il y a des animaux surprenants qu'on vous appelle pour des animaux un peu particuliers ?
Alors vous savez, on nous contacte pratiquement pour tout. Alors, ce qui est surprenant, c'est que lorsque, par exemple, de Toulouse, une personne vous appelle pour vous dire « Ah, on a trouvé un petit martinet qui est au sol », Toulouse, c'est déjà pas la porte à côté, mais il n'y a pas de centre de sauvegarde à Toulouse, hein, il n'y a que l'école vétérinaire qui est fermée l'été. Et puis ces gens-là, vous essayez de leur donner des conseils, et puis vous leur dites, mais des martinets, on en reçoit une cinquantaine par an. Et puis il y a des gens, c'est quoi, ça arrive couramment, et bien ils prennent leur voiture et ils nous amènent un martinet. Donc ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont capables qui font 400, 500 km pour se déplacer, pour amener un martinet. Ça fait partie des choses qui surprennent un petit peu, parce que bon, martinet, c'est une espèce qui est relativement commune. Après, bon, pour le reste des surprises, on en a toujours aussi. Hein. Lorsque, par exemple, il y a quelques années, on avait récupéré sur le plateau du Larzac un plongeon arctique. Un plongeon arctique, c'est un oiseau normalement qui vit dans la mer du Nord. Retrouver ce genre d'oiseau sur le plateau du Larzac, c'est assez surprenant. Et c'est un oiseau qui a vraisemblablement traversé toute la France et s'est retrouvé piégé par une tempête et coincé au sol. Après, dans les animaux courants, je crois qu'effectivement, ici, on a quand même pas mal de faucons cresserelles, quelques chouettes chevêches, des bus variables, bien sûr. Mais après, il y a aussi parfois des animaux un petit peu plus emblématiques, hein, qui sont beaucoup plus rares et qu'on reçoit. Mais ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est de voir que parfois, des gens sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour amener un écureuil, ça peut être aussi des hérissons, on reçoit beaucoup de hérissons. Et les gens qui ont des hérissons chez eux sont vraiment très attachés à cet animal. Ça, c'est un animal, le hérisson, qui, on peut le dire, lui, a vraiment une très très bonne réputation.
Tous les animaux se soignent de la même façon ?
Alors non, c'est vrai que chaque animal, ce qui est important dans un centre de sauvegarde, ce sont les soins aux animaux, bien sûr. Mais chaque animal est différent, et ça c'est un petit peu grâce à l'Union française des centres de sauvegarde et à la mise en commun des connaissances qu'on arrive à avoir des protocoles qui ont été faits aussi parfois par des vétérinaires d'ailleurs, qui nous permettent de traiter au mieux chaque animal en fonction de l'handicap qu'il peut avoir. Mais ce qui est certain aussi, c'est que c'est là surtout que notre rôle est important, c'est que les gens qui s'occupent de centres de sauvegarde doivent être à même d'assister les vétérinaires, d'une part pour soigner les animaux, mais surtout à même de bien connaître la biologie de chaque espèce qu'il reçoit, de façon à pouvoir les réintroduire dans le milieu naturel dans les meilleures conditions. Cette phase-là, elle est au moins aussi importante que l'accueil de l'animal et les soins. Parce que si un animal n'est pas relâché dans les bonnes conditions, il n'a aucune chance de survie. Si c'est un migrateur, on ne va pas le relâcher en plein hiver. Si c'est un vautour, on ne va pas le relâcher au bord de la rivière, on va le monter en altitude. Si c'est un castor, je ne vais pas le lâcher sur le plateau de l'Arzac. Alors j'image un petit peu, hein, là, ça semble être des raisonnements de bon sens, mais il y a des fois où c'est beaucoup plus subtil.
La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
Les milans noirs sont revenus. Les milans noirs sont revenus. Ils ont pris leur envol d'un commun accord, quitté le continent à leur couleur et emprunté un chemin de terre et d'eau. Dans le claquement sec de leurs rémiges, l'odeur de l'Afrique s'est dissipée au-dessus du détroit de Gibraltar. 15 kilomètres d'un rivage à l'autre. Ils ont filé dans les embruns, emplissant le ciel de leurs nuées sombres pour une traversée périlleuse à l'issue hypothétique. Longue est la route, où parfois tombent comme neige noire les corps affaiblis, bercés par le frisolis d'une vague. Radeau de plumes sans histoire. Les oiseaux savent-ils le désespoir ? Ils ont abordé les côtes blanches et poudrées d'ombre la houle précieuse de l'Occident. Les milans noirs sont revenus. Ils boivent l'eau des pluies fraîches de mars et se dressent au faîte des arbres nus. Éclat de syrinx dans l'air calme des campagnes, hennissement de victoire, des chevaux sur les branches. Tout le ciel alors, comme une écurie, résonne du galop des rapaces, leurs ailes noires ourlant la crinière blanche des nuages. Ils font berceau les nids de corneilles et de corbeaux. Ils attendent, à l'abri des houppiers, le déploiement ultime des limbes et les fissures aux parois nacrées des coquilles. Les oiseaux savent le temps. Dans la touffeur de juillet, ils font école. Ils enseignent le vol dans le souffle du vent. Ils apprennent l'odeur et le goût des campagnols et des chairs putrides à disputer aux insectes saprophages. Ils font plume et se comptent dans les grappes aux ramures des peupliers. Ils scrutent les lunes pleines, les lunes noires, et jouent à 1, 2, 3 soleils dans la lumière déclinante de septembre. Les milans noirs partiront bientôt. Les oiseaux savent-ils l'avenir ?
Aujourd'hui, il sera question de passion et d'amour du métier. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de Romain Saulier, un univers aux odeurs de bois, de résines anciennes, rythmé par les caresses du rabot et de la gouge.
Je fais au maximum à la même. Et après, donc, je me fais tout ce que je vais utiliser. Je me fais les teintes. J'essaie de faire au maximum des teintes à l'eau. Donc avec la chicorée, du brou de noix, du café.
Et c'est des techniques teintes... qui étaient utilisées au 15e, au 16e et tout ça. D'accord, voilà. Tu reprends les vieux.
Après, il y a quelques teintes chimiques avec du bichromate, enfin quelques procédés. Mais je reprends des vieilles recettes et je fais au maximum. Comme...
Dissonance.
Romain Saulier.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Il y a beaucoup de, comment dire, de temps d'essais et d'entraînement. Ouais. Par exemple, si on voit de nouvelles techniques, on ne sait pas trop, qu'on ne maîtrise pas trop, il faut s'entraîner un peu avant pour essayer de faire au mieux après sur l'objet. C'est assez divers. Il y a de la sculpture, il y a de la marqueterie, il y a de la finition, il y a du plaquage, il y a un peu de menuiserie. Donc, il y a un peu de... C'est assez divers.
Tu serais content qu'un jour, quelqu'un frappe à la porte et t'amène un truc extraordinaire.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, n'importe quel objet, ça fait n'importe quel objet, ouais. Moi, je suis satisfait de n'importe quel objet. Il suffit qu'il soit ancien et qu'il ait une certaine patte de travail, qu'on voit que le travail a été fait à la main, que c'est un joli travail. N'importe quelle est la valeur de l'objet, moi, ça m'importe peu. Après, c'est le travail qu'il va y avoir à y faire dessus. C'est ça qui m'intéresse.
Tu es plus respectueux.
S'il y a un peu de sculpture et tout, ouais. Ça, je vais bien. Enfin, j'apprécie après. Il y a certains domaines que j'apprécie plus à... Comment dire? Il y a certaines parties du travail que j'aime... Comment dire? Que je préfère. C'est-à-dire, s'il y a un peu de marqueterie, j'aime bien. Après, j'aimerais pas avoir que de la marqueterie. S'il y a un peu de sculpture aussi, j'aime bien. J'aimerais pas avoir que de la sculpture non plus. J'aime bien que ce soit diversifié.
D'accord.
Donc, un objet, une fois, avec un peu de marqueterie, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est parce qu'on ne fait pas qu'une chose.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut t'amener à rénover, Romain?
Alors, n'importe quel objet du mobilier, enfin, tout ce qui concerne du meuble. Bah, ça peut être chaise, fauteuil, tout ce qui est structure, hein, pas tapisserie. Après, ça peut être armoire, commode, pendule. Ça peut être tout ce qui est autour du meuble. Même quelques portes d'entrée, d'anciennes portes d'entrée. Ça peut être n'importe quoi, table de chevet, chaise.
Et tu te déplaces.
Tout ce qui fait partie du mobilier. Ouais. Alors je vais chez
le client. Ouais.
M'envoie un mail, on me dit j'ai un objet à faire restaurer. Soit m'envoie des photos de l'objet avec où c'est qu'il a abîmé. L'objet a d'abord entier, ouais. Et après les détails de là où il a abîmé. Du coup, je peux de là faire une estimation déjà. Ou je me déplace, je viens prendre des photos, je fais une estimation, j'envoie un devis. Après, si les clients sont d'accord, je vais chez le client chercher le meuble et je le ramène à l'atelier, je le restaure et je lui rapporte.
D'accord.
Ou si ça vient à être des gens qui habitent très loin, après il faut trouver un transporteur et on s'organise avec un transporteur. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça.
Bon, t'as l'air heureux en tout cas dans ton métier.
Ouais.
Ben... Tu t'épanouis et ouais, ça correspond à ce que tu imaginais.
Après, oui, ça correspond à ce que j'imagine. Après, je trouve que c'est dur de chiffrer, de faire un devis du temps qu'on va y passer. C'est ça qui est dur de s'en sortir et à se faire payer, à se tirer un minimum à vivre. Ouais. Dans 2-3 ans, j'espère avoir agrandi le local, avoir une salle pour faire traitement par anoxy et tous les nouveaux procédés.
D'accord.
Être au top.
Tu as grandi chez la forge de l'arrière-grand-père, alors.
Voilà. Faire un coin métal à côté, pour tout ce qui est serrure, ainsi de suite.
Alors, sur la boule, ça sert pour dresser. Quand on a une partie courbe, si c'est pas plat, si c'est pas d'équerre ou n'importe quoi, s'il y a un trou, je prends et avec ça, j'enlève les bosses, les creux et je me fais une partie parfaitement rectiligne et plane.
D'accord.
Et là, ça enlève s'il y a une bosse ou un creux.
Ça, tu fais ça à la main, mais les menuisiers font ça avec...
À la dégauchisseuse.
À la dégauchisseuse.
Ouais. Donc, parce qu'à l'époque, c'était fait à la main, ça laisse d'autres traces. Enfin, on peut le voir facilement, on passe un coup de dégauchisseuse. On aura les traces de machine qui ressortent à la finition, si on ne ponce pas, si on ne ponce pas. Et moi, je ne ponce pas. Donc je fais ça là, je passe ça, et après, pour la finition, je vais racler le meuble. Après, si des fois je passe un coup, très léger coup de papier abrasif, mais très fin pour la finition, pour casser les bords quand ils remontent et tout. Il n'y a pas de ponçage. Et après, avec ça, je viens enlever une petite pellicule, ce qui me permet d'avoir une finition correcte avant de...
Donc, tu es soucieux aussi au fait qu'on ne voit pas la trace de l'outil moderne et qu'on...
Ah oui, c'est super important. C'est, ouais, c'est très important. Ouais.
La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
Le roman de Fatou Diom, Kétala, débute avec ces mots. Lorsqu'une personne meurt, nul ne se soucie de la tristesse de ses meubles. Ces meubles qui traversent le temps et conservent l'empreinte de ceux qui sont morts. L'usure d'un plateau de table rappelle cette main qui en caressait le grain pour en chasser les miettes de pain. Dans ce buffet au bois abîmé, elle rangeait le linge de table, les assiettes, les couverts et les pots de confiture. Lui, il s'asseyait tous les après-midi à ce bureau, dans le tiroir duquel il rangeait les documents importants, ainsi que quelques stylos. Ce petit lit aux hauts barreaux a accueilli plusieurs générations d'enfants pour des sommeils sereins. Dans cette armoire, des restes d'odeurs de draps amidonnés ravivent des nuits d'été, qu'on passait fenêtre ouverte sur le champ des grillons. Et coincé derrière l'une des tablettes, un papier égaré depuis des années, une lettre d'amour qu'une femme avait cachée aux regards indiscrets. Elle l'aura cherchée longtemps, celle qui n'est plus, et qui, déjà, en ouvrant les vantaux, respirait le parfum de ceux qui étaient là bien avant elle. Par l'entremise des meubles, nous nous souvenons. Ils nous disent l'absence et rendent tangibles ces existences passées. Mais qu'en est-il de ceux qui ont dû quitter leur pays, laissant derrière eux les gravats d'une maison et toutes leurs possessions ? Partis pour un exil forcé, les mains vides, ils ont perdu tout ce qui faisait la substance de leur vie. Mais qu'en est-il de ces milliers de personnes qui ont sombré dans les eaux glacées des mers et avec eux tous leurs souvenirs ? Souvenirs d'enfants, souvenirs de parents et de grands-parents. Des histoires de vie que peut-être personne ne pourra jamais restituer. Des vies écartées de la mémoire des hommes qui ne veulent pas savoir. Des vies effacées définitivement et dont plus aucune trace ne subsiste, même pas un corps. Et on trouve de braves gens pour clamer haut et fort que s'ils embarquent pour une traversée périlleuse, c'est pour profiter des aides sociales. On trouve de braves gens pour clamer haut et fort que s'ils viennent ici, c'est avec des intentions malveillantes. On trouve de braves gens pour clamer haut et fort qu'ils feraient mieux de rester chez eux, dans le fracas de la guerre ou dans une grande misère. Alors, on se prend à rêver de la parole d'une vieille table en chêne, de celle d'une bibliothèque en merisier un peu bancale, de celle d'un lit au montant lustré par les mots tendres qui s'y échangèrent, pour raconter le bonheur d'un matin, la rumeur de conversations frivoles, l'éclat d'une dispute, les jeux des enfants. Les meubles sauront peut-être pleurer ce que les hommes ne savent pas pleurer. Ils pourront peut-être dire, dans leur langue muette, ces existences anéanties que nous ignorons et se souvenir pour nous d'une humanité disparue.
Il n'y en a pas sur cent, et pourtant ils existent. La plupart espagnols, à ne savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Les anarchistes,
ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées.
Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent. La plupart fils de rien.
Pour que que dalle et pourquoi. Avec l'amour au point, sur la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore.
Et elle a pas sur sang, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes.
Ils ont un drapeau noir en berge sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Un couteau pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent.
Ils existent, et qu'ils se tiennent bien.
Joyeux et ses cousins, qu'ils sont toujours debout.
Qu'ils sont toujours debout,
les anarchistes.
Dissonance.
Sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui, en compagnie de Jean Vaz Aranzaez, fils de libertaire espagnol, nous allons découvrir une page bien plus qu'oubliée de l'histoire, une page falsifiée, une page arrachée et presque enterrée par l'histoire dite officielle. En 1951, Albert Camus écrivait.
Alors, le 19 juillet 1936 sera aussi l'une des dates de la deuxième révolution du siècle. Celle qui prend sa source dans la Commune de Paris, qui chemine toujours sous les apparences de la défaite, mais qui n'a pas encore fini de secouer le monde et qui pour finir portera l'homme plus loin que n'a pu le faire la Révolution de 17. Nourrie par l'Espagne et en général par le génie libertaire, elle nous rendra, un jour, une Espagne et une Europe, et avec elle de nouvelles tâches et des combats enfin à ciel ouvert. Ceci du moins, c'est notre espoir et nos raisons de lutter. Albert Camus.
Nous n'avons pas le moins du monde peur des ruines. Nous allons hériter de la terre. Nous portons un monde nouveau, là, dans nos cœurs. Et ce monde grandit en cette minute même.
Dissonance.
Jean Vaz Aranzaez.
Sur Radio Centrafrique.
C'est peut-être un tournant, parce que à la suite de cette défaite, entre guillemets, de la CNT sur Barcelone, de très nombreux militants anarchistes vont... Les plus radicaux vont être arrêtés. C'est donc bien le début de l'échec de la révolution sociale, ce qui va provoquer une déception profonde pour de nombreux militants et de nombreuses fractures dans le mouvement libertaire. C'est le début de la fin, de l'expérience. Ça va se préciser puisque cette mise au pas de la CNT va se poursuivre en août 37 par la dissolution du Conseil d'Aragon et la destruction violente des collectivités aragonaises. Donc le 4 août, Indalecio Prieto, qui est le ministre de la Défense, envoie la 11e division du général communiste Lister en manœuvre en Aragon. Appuyé par d'autres divisions au commandement également communiste, Lister impose une occupation militaire dans tout l'Aragon, une occupation violente. C'est une anecdote, mais à Caspe, qui était le siège du... Caspe, qui était là, le siège du Conseil d'Aragon, puisque les trois capitales de province aragonaises étaient aux mains des rebelles, donc Huesca, Zaragoza et Teruel. Donc le Conseil d'Aragon s'était établi à Caspe, dans la province de Zaragoza. Lorsque rentrent les hommes de la division Lister à Caspe, baïonnette au canon, détruisant tout ce qui pouvait être des symboles des collectivisations, un soldat dans les bureaux du Conseil d'Aragon, il y avait un immense portrait de Durruti, dont on ne saura jamais d'ailleurs comment il a disparu en novembre 36 sur le front de Madrid, comment il a été tué. On n'a jamais tellement éclairci la mort de Durruti, qui était une figure emblématique, bien sûr, de l'anarchisme. Eh bien, un soldat avec sa baïonnette déchire complètement le portrait de Durruti en disant « Fasciste, comme vosotros todos !» Fasciste, comme vous tous ici. Donc ça montre à quel point l'antagonisme entre communistes et anarchistes, antagonisme qui se prolonge peut-être même jusqu'à aujourd'hui dans les générations qui ont suivi, est fondé quand même sur une histoire qui est très très violente, très très violente. Donc, certaines divisions anarchistes à ce moment-là qui sont au front veulent s'opposer au démantèlement des collectivités, mais elles recevront de la part toujours pareil des dirigeants anarchistes l'ordre de ne pas quitter le front. Et donc des centaines de militants anarchistes sont arrêtés, certains disparaîtront, on ne saura pas. Et le 18 août, le gouvernement Négrin promulgue le décret de dissolution du Conseil d'Aragon. Malgré ça, et ça montre à quel point beaucoup avaient adhéré au principe même, à cette base même de la collectivisation et du communisme libertaire, dans certains villages, sur Huesca et sur Teruel, les collectivités se reconstitueront, mais bon, ça sera très éphémère, mais vous voulez poursuivre la... Malgré cette volonté d'en reconstituer quelques-unes, août 37, marque la fin de la révolution sociale, et même si la CNT reste une composante essentielle du camp antifranquiste, elle est en quelque sorte normalisée. L'expression n'est pas de moi, elle est de Godichaud peut-être. Elle est normalisée. C'est la fin de l'utopie en marche. Beaucoup de militants voient mal l'intérêt d'une guerre sans la révolution, et c'est vrai que certains quitteront même le front, se replieront vers la région de Barcelone, quittant le front où domine maintenant la discipline et la police politique communiste.
Et certains continueront aussi le combat au sein de milices ou de divisions anarchistes comme ton père.
Bien sûr. Mais mon père tient, puisqu'on parle, mon père qui était commissaire dans une division anarchiste.
Jusqu'à la fin de la guerre.
Jusqu'à la fin de la guerre, qui n'a jamais porté l'uniforme d'ailleurs. M'a souvent raconté que lorsqu'il devait quitter le front pour se rendre à des réunions d'intendance, à l'arrière-garde, lorsqu'il revenait au front la nuit, je vais vous le dire en espagnol, il était mis à mas à las balas comunistas qu'à las balas fascistas.
Il craignait davantage les balles communistes que les balles fascistes.
En effet. Donc c'est dire à quel point on était arrivé, hein. Donc voilà, Godichaud, dont je disais un mot là, à qui j'avais emprunté normalisé, dans un article de la revue L'Histoire de septembre 2016, nous dit clairement que l'aide soviétique n'eut pas que des effets militaires, mais qu'elle permit aussi au gouvernement républicain de s'imposer contre les forces révolutionnaires.
La palomita con pico de oro se puso a buscar a la estrellita que estaba apagada, a que brilla de nuevo podamos amar. palomita con pico de oro se puso a buscar a la estrellita que estaba apagada, a que brilla de nuevo podamos amar. Hay que de tanto y tanto y tanto llorar. La palomita con pico de oro se puso a buscar a la estrellita que estaba apagada, a que brilla de nuevo podamos amar. A que brilla de nuevo podamos amar.
Dissonance va pointer son micro vers la langue occitane. À travers l'itinéraire d'Yves Durand, enfant du pays, nous découvrirons ensemble comment il s'en est emparé pour la faire revivre à travers sa profession de comédien et de conteur. Mais la faire vivre, non pas de manière intégriste, plutôt d'une manière ouverte, balayant les frontières linguistiques allant d'une culture à l'autre.
Autant de thèmes abordés avec Yves Durand, poète, comédien, conteur, mais aussi parfois musicien. La preuve, en écoutant aussitôt cette chanson interprétée par le Macarel Show et dont il a signé « Dans une autre vie », nous dirait-il, la musique.
In la Milo de Toulouse, al pais de l'abricot rosso, y avio l'ugra de mille, l'umiliast, fan tu parolu caissu, che hai chi condevo, nel mondo stal picciù, hai un buon baricù. Al país de Fialdes y a Biolumar Sensi, que ropla de gurdi, hay set de pelumati, hay set, hay fach de cami, tambal un pla de millas, quin cop de bastus es lunas.
Dissonance,
Yves Durand,
sur Radio Saint-Afrique.
Bonjour, je m'appelle Yves Durand. Je suis né en 1961, en décembre, en plein hiver, au mois le plus froid de l'année, on pourrait dire. Et je suis né à Saint-Juéry-le-Château, c'est pas très loin d'ici, donc dans une petite ferme. Mes parents étaient paysans, je suis né là, famille de 8 enfants, donc famille nombreuse, famille heureuse. Et voilà, j'étais à l'école au village, j'ai été au collège à Saint-Afrique, comme beaucoup d'enfants d'ici. Je suis parti à Descazeville au lycée. Ensuite, à Descazeville, j'ai une formation de mécanique générale. Donc pas du tout dans ce que je fais actuellement, comme quoi la mécanique mène à tout. Hein. Donc après le lycée, j'ai travaillé, donc je suis rentré dans la vie active. Tout d'abord comme pompiste, c'est très, comme pompiste à Saint-Afrique, en face de l'hôpital. Et puis après mécanicien dans une entreprise de travaux publics ici à Mont-Laur, pendant un an et demi. Puis après je suis parti, enfin j'étais appelé en tant que patriote. À l'époque il y avait encore le service militaire. Bon, moi j'ai refusé, j'ai écrit à François Mitterrand, en lui disant que je ne voulais pas faire l'armée, et donc j'ai demandé le statut d'objecteur de conscience, que j'ai fait donc une première année à l'Office national des forêts en Ariège, et puis la deuxième année, puisque c'était 2 ans, j'ai fait mon service civil ici à Coupiac, au château de Coupiac, où là j'ai rencontré un peu le monde, c'est-à-dire que c'était le château, donc en pleine restauration, 82-83, et il y avait des chantiers internationaux, c'était l'association Concordia qui s'occupait de ça, en relation avec l'association des Amis du Château de Coupiac. Et donc là, je peux dire que j'ai rencontré le monde, là. C'est-à-dire que j'ai rencontré plein de gens de mon âge, donc qui venaient faire des chantiers. Donc voilà, le monde est venu à moi. Et finalement, c'est un peu ça, mon voyage à moi, il est un peu là. C'est pas moi qui suis allé voir... Enfin, je ne me suis pas déplacé physiquement voir le monde, mais le monde est souvent venu à moi. C'est-à-dire que je rencontre pas mal de gens, mais c'est souvent ma position, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je me suis assis sur le bon banc, ou je ne sais pas, mais voilà. Donc j'ai rencontré pas mal de monde, et donc ça a ouvert des choses, hein. Je dis pas que les choses étaient fermées, loin de là, hein, c'est pas parce que... Mais voilà, j'ai vu des choses un peu différemment. Et notamment, peut-être aussi, cette idée de prendre conscience de l'endroit où je suis né, de l'endroit où je vis, puisque je vis là où je suis né. Ben, voilà, c'est le petit oiseau qui, finalement, j'ai changé de branche, mais pas d'arbre, quoi. Parce que ça me plaît bien, voilà, parce que c'est... Mais moi, c'est pour ça peut-être aussi que quand des gens viennent habiter ici et qui trouvent la région jolie, je suis d'accord avec eux, et que souvent je lis facilement amitié avec des gens qui viennent de l'extérieur, peut-être plus qu'avec des gens qui sont d'ici, mais c'est parce qu'on est d'accord là-dessus, c'est que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, ce coin de terre, moi je le trouve joli, beau, et puis il est profond, enfin... Après, c'est peut-être ça aussi qui fait que, quand on parle du côté, toute ma création, le travail qui est artistique, hein, il est là aussi. C'est parce que la terre est profonde et faut aller chercher les cailloux qui nous disent des choses. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Hein.
En vous rendant sur le site internet de Radio Centrafrique, rubrique Dissonance, vous trouverez des liens qui vous renverront sur les émissions originales qui vous permettront d'approfondir ces témoignages.
Cette émission sera rediffusée lundi 24 juillet à 20h et mercredi 26 juillet à 11h.
Rendez-vous au mois d'août pour retrouver à l'ombre du figuier ou du parasol la suite de la rediffusion des meilleurs moments de Dissonance, saison 2. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.